Bonsoir les distordus, ici Émile de Distorsion. Aujourd'hui, on a une grande nouvelle pour vous. Sachez qu'on a maintenant notre propre bande dessinée en collaboration avec Low Reader.
Grâce à notre fidèle partenaire et illustrateur Ron du label 619, Distorsion s'associe à la série de bandes dessinées d'horreur Low Reader, le temps d'une édition spéciale sur les histoires étranges de l'ère numérique.
Trois histoires de fiction illustrées par des futurs stars de la BD y figurent. Nous abordons des thèmes comme les jeux vidéo hantés, les Red Rooms sur le Dark Web et le pouvoir des influenceurs toxiques dans trois histoires illustrées par Pivoine, Rourse et Petit Rapace et scénarisées par Ron lui-même.
Comme à notre habitude, vous trouverez plusieurs autres surprises dans cette BD de plus de 100 pages.
Sachez que la BD est disponible dès maintenant chez tous les bons libraires d'Europe et elle sort au Québec le 30 novembre partout. Vous pouvez la précommander dès maintenant sur le site leslibraires.ca.
Âme sensible, s'abstenir. Sur ce, bonne lecture et bonne écoute.
C'est parti!
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
New revelations in the years-long investigation into the murder of two young teen girls in Delphi, Indiana. Freshly unsealed court documents allege Richard Allen admitted to killing Abigail Williams and Libby German. Back in 2017, the two girls went missing while hiking a local trail. One day later, their bodies were found in the woods.
Des histoires étranges de l'ère numérique.
En 2017, deux jeunes filles, Abby et Libby, sont froidement assassinées dans la région de Delphi, dans l'Indiana, après avoir rencontré un homme louche lors d'une randonnée sur un pont.
À l'époque, Libby avait filmé l'homme sur le pont. On l'entend même diriger les deux filles en leur disant « Down the hill ».
Depuis notre dernier épisode sur le sujet en 2018, les choses ont beaucoup évolué. Un étrange profil de réseaux sociaux a été révélé, un suspect a été arrêté, même une piste de rituel sectaire a été évaluée.
6 ans plus tard, nous revenons avec l'ultime mise à jour sur cette histoire qui trouble encore l'Amérique entière.
Sébastien Lévesque, comment ça va ce soir?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce qu'on revisite un cas qu'on avait déjà couvert dans le passé. Puis c'est intéressant de faire ça. Je pense que c'est la première fois qu'on le fait.
À ce point-là, oui.
Oui, l'histoire du double meurtre à Delphi qu'on avait couvert en 2018. Donc, oui. C'est une histoire de 2017. Et en 6 ans, vous allez voir, il s'en est passé des choses. Mmh. Vous allez voir, on va vous résumer l'affaire. Mais en même temps, on vous invite très fortement à aller écouter notre épisode qu'on avait fait double meurtre à Delphi en 2018. Donc, ça devait être dans nos premières saisons,
oui,
en
oui,
fait.
Oui, sûrement la deuxième. Mais tu vois que même après tout ce temps-là, l'histoire est toujours pas complètement résolue. Hein?
Pas complètement résolue, mais vous allez voir, il y a eu des rebondissements assez incroyables. Ça a été assez fou là, de replonger là-dedans. Je voyais toujours des nouvelles passer au fil des années depuis. Ouais. Puis je me disais, quand est-ce qu'on serait dû pour faire un nouvel épisode? Écoute, je pense que True Crime Garage, nos collègues américains, je pense qu'ils ont fait 5 updates depuis leur premier épisode.
Okay, wow.
Donc, vraiment, il s'en est passé des choses. Donc, nous, encore une fois, on a tout regardé, tout écouté, puis on va vous résumer ça le mieux possible. Mais pour commencer, Seb, qu'est-ce qu'on boit là, pour passer au travers de cette histoire-là?
Oui, on boit une bière qui s'appelle la Portail vers un autre univers, qui a été fait par la microbrasserie Mutoïde, hein, qui est dans le quartier, près du métro Préfontaine.
Yes.
Et c'est une porteur baltique à 8%, une grosse bière noire là, qui est délicieuse. Et cette bière-là, Émile, elle nous a été offerte par Alexis, qui est venu encore une fois à l'événement Renaud Bré nous porter ça en main propre. Il travaille là. Mm-hmm. Donc, on le remercie de tout cœur pour cette tournée de bière. Ça nous fait chaud au cœur en plus quand les gens travaillent aux endroits où au microbrasserie qui nous apporte la bière. Je trouve que ça ajoute une couche, quelque chose de plus, je trouve, dans le cadeau.
Absolument. On a aussi un shout-out à donner à Alex EPB qui nous a donné une review de 5 étoiles sur Apple Podcast. Elle nous dit « Le podcast idéal, c'est un podcast pertinent et intelligent, une belle heure de divertissement cohérente et fascinante. En tant que criminologue, je m'y retrouve complètement. » Donc, shout-out à tous les criminologues qui nous écoutent. Pour nous, on dirait que ça fait chaud au cœur de savoir que des gens qui pratiquent des vrais métiers du monde de l'enquête, exact. Ce qui n'est pas notre cas, nous, on est des raconteurs. Mais c'est toujours le fun de savoir que des gens qui ont de la vraie crédibilité dans le domaine nous en accordent un petit peu.
Oui, exact. Je ne pourrais plus mieux dire.
On a prévu un super after show pour vous, les amis. On va parler de l'affaire de Denise Huskins et Aaron Quinn, qui est un peu une histoire qui fait penser au film Gone Girl, une histoire d'enlèvement, de kidnapping. Mm-hmm. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? En fait, le lien avec l'histoire des doubles meurtres à Delphi et cette histoire-là, c'est que Aaron Quinn, en fait, l'homme du couple avec Denise Huskins, pendant qu'il était captif, a réussi à prendre des photos et des vidéos de ses assaillants, ce qui a fait en sorte que l'enquête a évolué énormément. Okay. Puis on se rappelle, dans l'histoire de Libby et Delphi, qu'on va couvrir aujourd'hui, les preuves qui ont été filmées par Libby elle-même, qu'on a retrouvées sur son téléphone, ont été très importantes. Et sans elles, on n'aurait sans doute jamais retrouvé le coupable, quoique c'est encore un peu flou. Mais suivez-nous au cours de cette histoire-là. Et pour l'after show, évidemment, vous allez voir, c'est assez passionnant. Nos membres Patreon y ont accès. D'ailleurs, on vous encourage, si ça vous tente d'avoir beaucoup plus de contenu, commence à avoir du stock sur Patreon.
Oui, quand même,
Quelqu'un qui rejoint le Patreon maintenant avec le forfait Oui Monsieur qui donne accès à tous les bonus, il est chanceux parce que là, il commence à avoir du stock. Les bonus s'empilent.
Il y a des after-shows pour depuis à peu près tous les épisodes depuis la saison 6, plus 3 épisodes complets exclusifs
secret,
à Patreon.
Oui.
Là, exact. Donc, ça fait quand même du bon contenu.
Oui, puis quelques bonus aussi qu'on a sortis ici. Exact, qui sont toujours exclusifs à Patreon. Et sans plus tarder, Seb, je pense qu'on a tout dit. Est-ce qu'on est prêt à se lancer dans l'histoire incroyable des meurtres à Delphi 6 ans plus tard?
Oui, mais avant de sauter dans notre épisode, Émile, te souviens-tu quand ton identité a été presque volée l'année dernière? Ces courtiers en données peuvent vraiment causer des problèmes.
Oui, puis je peux te dire que c'était vraiment une expérience terrifiante. Ça a complètement bouleversé ma vie le temps de quelques jours.
Oui.
Est-ce qu'il y a un moyen de se protéger contre ça, Seb?
Absolument. Et c'est là qu'Inconnie intervient. Les services se chargent d'effacer les informations des bases de données des courtiers en données. Tu sais, c'est ces entreprises qui vendent tes infos pour le marketing ou d'autres raisons. En utilisant Inconnie, tu reprends le contrôle sur ta vie privée.
Et ça, c'est une excellente nouvelle, Seb. Comment est-ce que je peux m'inscrire pour éviter un autre incident et une autre semaine de bordel comme celui de l'année dernière?
Rien de plus simple, mon cher. Tu visites leur site inconnie.com/distorsion, INCOGNI.com/distorsion, et tu utilises notre code spécial distorsion pour bénéficier d'une réduction de 60% pendant les fêtes.
60%, c'est assez big, ça. Puis ça coûte combien?
Très bonne question. Inconnie offre un abonnement annuel à un prix très compétitif à seulement $6,49 par mois. Également, tu as une option mensuelle si tu préfères. Leur processus d'inscription est facile et rapide et ça te permet d'accéder rapidement à cette protection qui est, selon moi, essentielle.
Puis puisque c'est une compagnie sœur de NordVPN, il doit avoir une garantie si je veux annuler.
Oui, absolument, c'est un gage de confiance et justement, ils ont tellement confiance en leurs produits qu'ils offrent une garantie de remboursement dans 30 jours. L'annulation est simple et sans tracas.
Je vais m'inscrire, Seb, immédiatement après l'épisode. Fini les spams et les risques inutiles. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour être tranquille cette année. Et maintenant, Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'épisode de ce soir?
Oui, madame. Oui.
Avec la sécurité d'esprit qu'apporte Inconnie.
Tout d'abord, on vous recommande, un peu comme on vous disait en intro, d'aller écouucouter l'épisode qu'on a fait en 2018 et c'est lors de notre saison 4. Le temps passe vite hein, quand même.
Oh oui.
Vous aurez ainsi un survol là, vraiment détaillé des événements. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait d'ici ce temps-là. Puis vous allez aussi pouvoir nous dire si on s'est amélioré ou non avec le temps.
Oui, c'est débattable.
Je vais vous faire tout de même un résumé là, de l'histoire là, pour qu'on puisse comprendre à partir d'ici. Donc, le 13 février 2017, E.B. Williams et Libby German, deux adolescentes originaires de Delphi, en Indiana, décident de passer l'après-midi ensemble. Elles choisissent de faire une randonnée sur le sentier de Monon High Bridge Trail, qui est une région, une zone en fait de loisirs populaire dans la région. Les deux filles ont été déposées par un membre de la famille au point de départ du sentier et prévoient se faire récupérer plus tard dans la journée. Elles ont commencé leur randonnée et ont partagé des photos sur les réseaux sociaux au cours de l'après-midi, notamment sur Snapchat. Vers 14 heures, Libby capture une photo et une courte vidéo sur son téléphone. La vidéo montre un homme marchant sur le pont du sentier. Sur la vidéo, on entend également une voix masculine demandant aux filles de marcher sur le pont. Les familles des adolescentes devaient les retrouver plus tard dans la journée, mais lorsque l'heure convenue arrive, Abby et Libby ne sont pas là. Inquiètes, les familles signalent leur disparition à la police locale. Les autorités lancent rapidement une recherche. Malheureusement, le lendemain, le 14 février 2017, les corps d'Abby Williams et de Libby German sont découverts près du sentier des Monon High Bridge Trail. Les circonstances exactes de leur mort ne sont pas immédiatement divulguées par la police. Par la suite, les forces de l'ordre tiennent une conférence de presse au cours de laquelle elles publient la photo de l'homme suspect capturé par Libby ainsi qu'un enregistrement audio de la voix de l'individu. Et c'est là qu'on l'entend dire quelque chose qui ressemble à « down the hill ». Donc, descend en bas de la côte ou en direction de la côte. Ces éléments sont diffusés largement dans les médias afin de solliciter l'aide du public pour identifier le suspect. Cette phrase restera à jamais gravée dans la mémoire des parents des deux jeunes filles. L'homme en question était identifié comme un homme entre 40 et 65 ans, une casquette de style kangol, là, un peu, de ce style-là, je ne sais pas comment trop le décrire. Là.
Une espèce d'hybride casquette béret un peu.
Oui, c'est ça, exact, merci. Une barbe d'environ une semaine, un gilet à capuchon, et il est décrit comme un homme de race blanche qui mesure environ entre 5 et 6 et 5 et 10, pèse environ une centaine de kilos, grosso modo entre 80 et 100 kilos, et ayant les cheveux bruns roux. Mais malgré un nombre de pistes qui provenaient de la communauté et de d'autres parties du pays, l'enquête ne progresse pas du tout durant les premières années. Puis là, on va vous parler de certaines rumeurs, en fait, qui ont circulé sur les circonstances de leur mort au fil du temps. Il faut en prendre et en laisser, là. Ce ne sont que des rumeurs. Au funérailles, par exemple, les deux filles portaient des foulards au cou, ce qui laisse croire que leur gorge aurait été tranchée. Elle aurait été aussi agressée sexuellement ou mutilée même, selon des témoins de la scène. Leur corps aurait été disposé d'une manière assez bizarre, laissant croire à un culte ou même à un rituel, selon des témoins de la recherche. Selon le coroner, tout s'est terminé à 15h30. Il est aussi possible que Abby ait survécu plus longtemps, qu'elle aurait peut-être même tenté de s'enfuir et qu'elle serait peut-être décédée dans l'ambulance ou encore dans la forêt. Il y a un petit garçon amoureux d'Abby qui aurait été suspecté aussi, qui fait en sorte que Abby serait enceinte de lui, et que lui en aurait voulu qu'elle se fasse avorter, mais c'est sans suite concrète, c'est un peu étrange pour des petites filles de cet âge-là. Puis aussi, une dernière rumeur, il est possible qu'il y ait deux tueurs, et qu'il y aurait une forme de chicane sous le pont. Donc, l'enquête reste active, et la police continue de demander l'aide du public pour résoudre ce double meurtre choquant à Delphi, Indiana.
Oui, puis on va voir un peu, te mentionner des rumeurs, Seb, c'est un peu là-dessus qu'on s'était laissé la dernière fois, oui. En 2018.
Oui, oui, oui.
Et là, aujourd'hui, ben, on va avoir la chance de revenir sur des faits. Il y a certains trucs autour de ces rumeurs-là qui ont été confirmés, d'autres qui se sont avérées fausses. On va faire le tour, évidemment, de toute la chronologie depuis ce moment-là.
Ouais.
Et puis, on va voir si ces rumeurs-là étaient fondées ou non. Ça risque d'être très intéressant. Tout d'abord, je nous ramène en 2019. Donc, puisque notre épisode a été diffusé 2018, on va reprendre un petit peu plus tard parce qu'en 2019, il y a eu beaucoup de développements importants dans l'histoire. Lors d'une conférence de presse menée par la police de l'État de l'Indiana, différents éléments numériques vont être révélés au grand public. Quand on se rappelle, les officiers ont annoncé auparavant que plus de 40 secondes d'audio avaient été capturées sur téléphone de Liberty. Donc, c'est quand même beaucoup, là, pas mal plus que Down the Hill. Même que potentiellement, le meurtre serait enregistré, selon certaines personnes.
Okay.
Lors de cette conférence, un peu plus d'audio est révélé. On entend le Down the Hill que tu nous as parlé, Seb, mais avec un peu plus de contexte, juste avant, on entend un homme dire « guys ». Donc, on entend « guys » Down the hill. Donc, c'est un petit peu plus long, la piste audio qu'on révèle. Cette nouvelle piste audio, même si elle ne révèle pas de nouvelles informations, par exemple, peut tout de même permettre à des gens d'identifier le coupable dans l'hésitation, par exemple, la respiration ou l'intonation, comment il enchaîne les deux mots. Donc, ce n'est pas banal comme nouveauté. C'est juste que ça arrive un petit peu tard, ça arrive 2 ans après le meurtre. En plus de cela, en plus de ce « guys down the hill », le bout audio où on entend ça, il y a une mini-vidéo de quelques secondes qui va aussi être mise à la disposition du public. On dirait genre un gif animé, là, tu sais, c'est très, très court. On comprend que la photo révélée plus tôt, là, qui montre l'homme sur le pont avec la casquette et tout ça, a été tirée de cette vidéo-là, car durant ces quelques secondes, on le voit marcher. Donc, encore une fois, la nouvelle information, elle est subtile. On le voit marcher, alors qu'avant, c'était une image fixe. Mais peut-être qu'elle permettrait, encore une fois, de reconnaître la démarche de quelqu'un que le public connaît. Parce qu'on le sait, on en a déjà parlé, on a tous une démarche unique là, qui nous est propre, presque comme des empreintes digitales là, qui pourraient nous aider à se faire identifier, par exemple.
Exact.
Le moment culminant de cette conférence de presse va être au moment où, coup de théâtre, un nouveau portrait robot d'un suspect est dévoilé. On se rappelle du premier portrait robot dont on avait parlé en 2018, Seb, que tu nous avais parlé, là, qui était un homme relativement âgé, entre 45 et 65 ans. Cette personne-là pourrait même être un clochard, selon certains témoins, avec une vieille casquette sur la tête ou encore une tuque à oreille. Le nouveau portrait, lui, est assez différent. En fait, ce nouveau suspect, il est plutôt âgé de 25 à 35 ans. Donc, quand même 20 ans de moins.
Ben
là.
Oui.
Donc, pas du tout la même tranche d'âge que le sketch précédent. Puis sur ce nouveau sketch, il ne porte pas de casquette. Puis on dirait qu'il est un petit peu mieux tenu. Là. Il a les cheveux mieux coiffés, la barbe peut-être mieux rasée.
Oui,
puis un visage plus élancé. Là. Donc, honnêtement, si j'étais un témoin potentiel, là, je ne saurais plus qui chercher là, entre la première image et la deuxième. Là. Et le superintendant de la police a déclaré dans cette conférence-là, « Nous avons un témoin. Vous avez commis des erreurs. Nous venons pour vous. Il n'y a aucun endroit où un lâche sans cœur comme vous peut se cacher, trouvant son plaisir à tuer de jeunes filles. » Donc, encore une fois, il a envoyé un genre de message clair aux tueurs potentiels. Le fait de publier une seconde photo remet aussi en cause la théorie du suspect unique. Est-ce possible qu'ils étaient deux, par exemple, pour commettre les meurtres? Il y en a qui pensent que ce n'est pas la même personne nécessairement. Un autre élément très intriguant va être révélé au public en avril 2019. Les enquêteurs sont à la recherche d'une voiture. Donc, on n'avait pas encore entendu parler de voiture suspecte en 2018. Pendant la conférence de presse, le surintendant de la police de l'État a déclaré que les autorités recherchent également l'aide du public pour identifier le conducteur d'un véhicule qui, selon eux, était stationné à un ancien bâtiment des services sociaux là, pour enfants, ce qu'ils appellent la CPS.
Okay.
Je pense que c'est le Child Protection Service à Delphi. À l'époque, c'était ça. Maintenant, c'est autre chose. Et cette voiture-là a été abandonnée En fait, du côté de la route CR-300 Nord, à côté de la Hoosier Heartland Highway, entre midi et 17 heures, donc le jour du meurtre, le 14 février 2017. La police indique que si vous étiez stationné là-bas ou si vous savez qu'il l'était, vous devriez contacter les officiers au poste de commandement au bâtiment municipal de Delphi. Et là, évidemment, il n'y a aucune info à propos de la marque de la voiture qui est révélée, car ils s'attendent à ce qu'un témoin potentiel le révèle en interrogatoire.
Oui, oui.
Ou qu'encore, ils ont peur que ça brûle le coupable, qui pourrait tenter de détruire des preuves, ouais. Par exemple, de brûler la voiture ou autre. Il semblerait même que des images aient été enregistrées de la voiture en question, où elle est perceptible dans les stationnements, mais les images seraient trop floues pour être diffusées, pardon, au grand public, selon eux. Mmh. Mais ce ne sont que des oui-dire. Les enquêteurs ont aussi déclaré qu'ils avaient des raisons de croire que le suspect pourrait être parmi nous, donc dans la communauté de Delphi, et qu'il est certainement familier avec la région, que ce soit parce qu'il y vit, qu'il y travaille, ou pour d'autres raisons encore.
Okay. Okay.
Donc vraiment, avec cette conférence de presse-là, ça va lancer comme un second souffle à l'enquête aussi. On cherche une personne différente. Il y avait déjà eu beaucoup d'indices reçus par les policiers et là, ils vont en recevoir encore plus.
Mais est-ce que les policiers, quand ils ont diffusé le nouveau portrait robot, est-ce qu'ils ont fait la nuance que c'était la même personne? Dans le sens que c'était qu'un seul coupable? Ou ils ont...
Eux ont dit que cette photo-là était la personne qui marchait sur le pont.
OK. Okay.
Donc, ils supposent que c'est la même personne.
Ouais,
ils n'ont pas spécifié ce détail-là. Donc, s'il y a plus d'un témoin, peut-être qu'il y a plus d'une personne aussi. Là.
Ouais.
Donc, ce n'est pas encore clair à ce stade-ci.
OK, je comprends. En juillet 2019, maintenant, un suspect d'agression sexuelle qui s'est suicidé au cours d'une confrontation avec la police dans le centre de l'Indiana en juin 2019 a également été considéré comme un suspect possible dans le meurtre d'Abby et de Libby, bien qu'il n'ait pas été officiellement lié à l'affaire. Écoutez ça. Paul Etter, 55 ans, s'est suicidé le 27 juin après une confrontation de 5 heures avec la police du comté de Boone, en Indiana. Le shérif du comté de Carroll a confirmé que Heather, parmi d'autres personnes, fait l'objet d'une enquête en tant que suspect possible dans l'enlèvement et le meurtre de Abby et Libby. Car écoutez bien ce qu'il a fait. Selon des rapports publiés, au moment où Heather s'est suicidé, il était recherché pour l'enlèvement et l'agression sexuelle d'une femme de 26 ans qui s'était arrêtée dans son allée le 22 juin après avoir eu, malheureusement pour elle, un pneu crevé. Les autorités ont déclaré que Heather lui avait proposé de l'aide, mais qu'elle ne se sentait pas en sécurité et avait refusé, puis avait conduit un peu plus loin. Il l'aurait suivie avec sa voiture jusqu'à ce qu'elle se gare dans l'allée d'un ami, où il l'aurait enlevée. Heather l'aurait amenée chez sa famille, où il l'aurait retenue et agressée sexuellement avant de la ramener dans sa voiture. Incroyable.
Wow, c'est épouvantable.
Quel salaud. 5 jours plus tard, la police a repéré Heather au volant d'un camion signalé volé et l'a arrêté. Cela a déclenché une confrontation de 5 heures qui s'est terminée par son suicide. Les enquêteurs ont reçu un tuyau concernant Heather dans le cadre des meurtres de Delphi, mais il n'est pas clair si ou quand les autorités pourront déterminer s'il est bel et bien le meurtrier.
Oui, parce qu'on dirait qu'il s'en est passé des choses à Delphi dans cette... dans ce coin-là,
oui.
Dans cet espace temporel-là, vous allez voir, on va parler d'une autre histoire aussi qui s'est déroulée dans le même espace-temps.
Oui, oui,
puis
oui.
Ça nous amène à croire est-ce qu'il y a plusieurs délinquants sexuels ou personnes malveillantes comme ça qui sont lâchées lousses dans le coin de Delphi parce qu'il y a d'autres drames qui se sont produits dans le genre, du moins.
Mm.
En 3 ans. Très peu de nouvelles pistes font leur apparition. Malgré la grande popularité du cas auprès de la communauté d'internautes et des web sleuths de ce monde,
oui.
La police d'État de l'Indiana a interrogé des centaines de personnes allant de témoins potentiels et de personnes d'intérêt à toute personne pouvant détenir des infos sur des activités suspectes le jour où les filles ont disparu. Plus de 50 000 indices ou commentaires ou pistes ont été donnés par téléphone ou par courriel aux enquêteurs au cours des 5 dernières années.
Quand même, hein?
La récompense pour trouver le meurtrier de Libby et Abby monte à plus de 325 000 $ US. Donc, c'est quand même une grosse récompense.
Oui.
Ça vient évidemment avec toute la pression médiatique parce que oui, c'est une histoire qui a fait le tour du monde. Lorsqu'on fait des recherches encore, on en a fait beaucoup cette semaine pour l'épisode, c'est fou le nombre de sources qu'on trouve pour la moindre petite nouvelle. C'est une histoire qui est extrêmement couverte par les médias, extrêmement suivie encore de nos jours.
Ouais.
Donc, c'est clair qu'à ce moment-là, 50 000 pistes envoyées aux policiers, c'est presque autant de travail que d'en recevoir zéro. C'est-à-dire que faire
c'est
le
vrai.
Tri dans
oui,
tout ça,
ben oui.
Ça ne doit pas être une mince tâche.
Non, puis ils ne peuvent pas se permettre de ne pas en évaluer une.
Ben non, sinon ils pourraient, ils s'en voudraient
si c'est
pour
elle
toujours.
Qui est la bonne. Donc,
Internet aussi là, devient un peu fou pendant cette période. Il y a des pages Reddit qui se créent et qu'on va rejoindre, moi personnellement par exemple, et l'histoire devient de plus en plus mainstream au grand public. Leurs familles ont fait des apparitions aussi au CrimeCon, aux événements un peu plus geek dans le monde du crime et à d'autres conventions pour maintenir l'affaire sous les feux de la rampe au niveau national. Donc, ça vient un peu avec, c'est un peu un gift et un curse, là. C'est-à-dire que ça ne doit pas être évident pour eux d'aller dans des événements comme ça, CrimeCon, puis se faire rencontrer, donner des autographes, je présume, à des gens qui sont passionnés de crime, mais ils savent que, afin de rejoindre un plus grand auditoire, ben vaut mieux le faire que pas le faire, tu sais.
Ouais, pas se faire oublier. Non, faut avoir un. Mais je pense qu'après un certain temps, tu dois changer un peu ton paradigme. C'est arrivé, il faut l'accepter, puis à partir de là, ben faut qu'on construise là-dessus. Là. Donc j'ai l'impression que c'est ça qui doit les garder en vie. Là.
Des amateurs d'enquête sur le web se sont autoproclamés et ont informellement associé plusieurs hommes au crime, incitant les enquêteurs à demander au public de cesser de partager les images d'hommes aléatoires en ligne.
Okay.
Parce que là, les gens commençaient à regarder les portraits robots puis à associer des gens qu'ils voyaient sur Facebook. Là,
ça c'est dangereux. Là.
Ils ont même émis un message à diffusion publique, en fait. Veuillez arrêter de publier des photos côte à côte de personnes que vous pensez être responsables. Ce que le bureau du shérif du comté de Carroll a publié sur les réseaux sociaux. Vous ruinez la vie de personnes innocentes. Avant de publier une comparaison, imaginez que c'est votre fils, votre frère ou votre père.
Oui, t'sais. Ben oui, exact.
Parce que là, c'est trop facile de tenter de... Je suis sûr qu'à partir de ce moment-là, il y a des gens qui ont commencé à analyser tout le Facebook de Delphi Indiana.
Ah, c'est sûr. Oui, t'as raison. Et c'est vrai.
Ouais. Ah oui. C'est un peu là aussi qu'on voit les limites du travail qu'on fait. Je parle de nous, Seb, en général, là, les podcasteurs, les YouTubers qui aiment le true crime. Et jusqu'où, en fait, on peut aller quand on ne respecte pas les victimes? Parce que même si on condamne personne sur la place publique à distorsion, à part peut-être Andrew Tate, on fait quand même partie de la communauté des internautes qui sont passionnés d'enquête en ligne. Donc, on contribue un peu à ce mouvement-là, d'une certaine façon, ça fait en sorte qu'il faut être délicat là, quand on parle d'une histoire comme celle-là.
Ah oui, t'as absolument raison. En mars 2022, 5 ans après les meurtres, les enquêteurs font une annonce importante. Ils recherchent des infos sur un compte de médias sociaux qui serait lié au meurtre des jeunes filles. Le compte au nom d'utilisateur, Anthony, barre de soulignement, Shots, a été utilisé sur Snapchat et Instagram, entre autres sur ces plateformes de médias sociaux-là, entre 2016 et 2017. La police indique que la personne derrière ce compte utilisait des photos d'un mannequin masculin et se présentait comme étant extrêmement riche et possédant de nombreuses voitures sport.
Bien sûr, dont aucune n'est louée.
Oui, non, exact, un beau catfishing encore. Les enquêteurs affirment que cette personne utilisait le profil pour communiquer avec des jeunes filles mineures afin de solliciter des images dénudées, obtenir leur adresse et même tenter de les rencontrer. La police a identifié le mannequin masculin dont les photos ont été utilisées sur le compte et indique que cet homme n'est pas du tout une personne d'intérêt dans l'affaire. Au lieu de ça, les détectives espèrent en savoir plus sur la personne qui a créé le profil. Les enquêteurs demandent alors à toute personne ayant communiqué avec le comte Anthony Schatz ou même l'ayant rencontré ou tenté de le rencontrer, d'identifier la personne, en fait, d'essayer de savoir c'est qui la personne derrière le profil et de contacter la police si c'est le cas. Les enquêteurs recherchent autant d'informations que possible, y compris la manière dont les personnes ont communiqué et sur quelle plateforme, en fait, qu'ils ont utilisé pour rentrer en contact avec lui. C'est pas fini, Emile. Un mois plus tard, avril 2022, un homme lié à des comptes de médias sociaux portant le même nom de profil que ceux actuellement liés à l'enquête sur les meurtres de Delphi fait face à des accusations dans une autre affaire distincte d'exploitation infantile.
Oui, incroyable. C'est pour ça que je disais qu'il s'en passe des choses dans cette petite région-là.
Keegan Anthony Klein a été inculpé le 29 août 2020. 30 chefs d'accusation, notamment exploitation infantile, possession de pornographie infantile, entrave à la justice. Il n'est effectivement pas le même jeune homme que l'on voit sur les photos. Il est un peu moins propre, si je peux dire ainsi, le poliment.
Ouais.
Les accusations découlent d'une perquisition menée dans sa maison de Pérou, Indiana, le 25 février 2017, seulement 11 jours après la découverte des corps de Liberty et de Abby. Selon un affidavit de cause probable émanant du comté de Miami, Klein aurait créé le compte Anthony Schatz environ 6 mois avant son interrogatoire en février 2017. Il aurait prétendu avoir créé le compte pour contacter des filles qu'il connaissait et d'autres qu'il ne connaissait pas. Les documents judiciaires montrent qu'il affirmait parler à des filles, même si elles avaient moins de 16 ans, et qu'il les trouvait sur Instagram avant de leur demander de les contacter sur Snapchat. Klein aurait prétendu avoir reçu des photos de toutes les filles avec lesquelles il discutait et les aurait enregistrées.
C'est vraiment un genre de catficheur en série.
Oui, hein, oui, vraiment. Selon les documents judiciaires, les enquêteurs ont parlé à Klein peu de temps après son retour de Las Vegas. Il aurait déclaré qu'il était foutu et qu'il aurait dû partir. Klein aurait prévu de quitter la région ce jour-là, une fois que son père serait endormi, selon les documents judiciaires. Dans cet affidavit de cause probable, Klein aurait déclaré avoir reçu des photos et des vidéos sexuelles des filles avec lesquelles il communiquait. Écoutez, là, on pourrait faire un épisode sur lui tellement tout ce qu'il a fait est dégueulasse. Mais quel serait donc son lien dans l'affaire de Delphi? Car, encore une fois, cette info n'est pas partagée au public. En fait, c'est un podcast qui va révéler ce lien, qui est fort troublant.
Oui, Seb, tu vas voir, parce qu'il y a des podcasteurs qui vont jouer quand même un rôle important dans cette histoire-là, à différents stades. Tout d'abord, Klein, il avait été arrêté, lui, 11 jours après la découverte des corps d'Abby et Libby pour une autre histoire, celle de pornographie juvénile, oui. Comme tu nous as parlé. Il avait donc été intensément interrogé à cette époque-là à propos des deux jeunes victimes, parce que bon, il est fort probable que ce soit un prédateur qui ait commis les meurtres de Delphi aussi, là. Ça semble être très similaire.
Oui, oui.
Il a aussi été interrogé en 2020 pour les autres comptes dont il était chargé. Donc, encore une fois, les policiers l'avaient à l'œil, même en 2017. Une transcription policière d'interview obtenue par le podcast Murder Sheet, que la police d'État de l'Indiana insiste n'avoir jamais divulgué, mais bon,
okay.
Montre que Klein a admis avoir parlé à Libby German lorsqu'elle était à une soirée pyjama.
Ah, écoute, okay. Ça,
la nuit précédant sa mort, en fait.
Mon Dieu, enfin.
Donc, l'interview de 194 pages montre qu'ils l'ont interrogé de manière approfondie sur les filles, cependant en le pressant sur l'allégation selon laquelle le faux profil qu'il avait créé était le dernier à être en contact avec elles. Ils lui ont dit, par exemple, « Je sais que tu dis ne pas te souvenir d'avoir jamais parlé à une fille, mais je sais que tu te souviens de Liberty German, » demande l'officier. « Tu sais que tu as parlé avec elle et tu as admis lui avoir parlé. » Klein, au départ, il nie initialement et dit qu'il pensait avoir parlé à l'une de ses amies.
Okay.
Et lorsque les policiers le challengent, il lui dit que bon, tu l'as bloqué parce qu'elle t'ennuyait pendant que tu lui as parlé dans la soirée, tu te souviens? Et là, c'est là qu'il a acquiescé, il a dit « oui, t'as raison
okay, ». Okay.
Il a dit « oui, je m'en souviens ». Parce qu'en 2017, il l'avait dit. Donc, c'est fucked up. Pareil, lui, il a parlé à une des deux victimes la veille, puis 11 jours plus tard, il se fait pogner pour pornographie infantile. Fucked up, pareil. Tout au long de l'entrevue, Klein a insisté sur le fait qu'il ne se souvenait pas avoir parlé spécifiquement à Libby, car il utilisait le profil Anthony Schatz pour parler à tellement de filles qu'il ne s'en rappelle pas. Mais plus loin dans la transcription, lorsque les officiers affirment qu'Anthony Schatz avait arrangé de rencontrer Liberty au pont de Delphi le jour de sa mort, il soutient à plusieurs reprises que c'est un mensonge. Donc, imagines-tu? Les officiers l'ont pressé encore une fois là-dessus et il a répondu « En fait, oui, on devait se rencontrer, mais elle n'est jamais venue.
Okay. »
Donc là, il y avait combien de prédateurs qui étaient après ces jeunes filles-là dans la région de Delphi? C'est troublant un peu. Là.
Oui, ça me trouble. Pourquoi sont-ils la cible? Dans le sens qu'il n'y avait rien de particulier. Des petites filles, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Des petites filles de 13 ans, je veux dire, normales. Est-ce que c'est elle qui allait, puis là, je ne mets pas, est-ce que c'est elle qui allait galvauder, comment dire, dans des communautés où, tu comprends ce que je veux dire?
Ben, je pense que, en fait,
peut-être pas non plus. Là, mais
je vais savoir, mais il y a peut-être un bassin de prédateurs dans ce coin-là. Tu sais, ça se passe beaucoup par Snapchat. Je sais que sur Snapchat, il y a quand même une bonne invasion de catfish, là, surtout auprès des mineurs, là, autant garçons que filles. Je pense que c'est un bon bassin de je ne veux pas dire pédophilie, là, mais c'est un bon bassin de prédateurs sexuels sur Snapchat, je pense.
Parce que là, c'est vrai que dans ce secteur-là, il y en a beaucoup là, autour
oui, c'est des drôles de coïncidences. Klein, lui, affirme avoir jamais écrit ce message-là, mais en fait, va savoir, il a été exempté de ça, en fait. Il a été complètement clairé. Tout au long de l'entrevue, il a affirmé que plusieurs personnes avaient accès au compte Anthony Schatz, y compris son père.
Okay.
Donc là, jamais je croirais, d'après moi, il a dit ça juste pour bluffer, jamais je croirais que son père, lui aussi, allait... tenter d'attraper des mineurs. Là. En tout cas, si oui, drôle de famille. Les enquêteurs pensent qu'au moins deux personnes ont utilisé le compte Anthony Schatz en se basant sur la différente syntaxe là, utilisée dans les messages.
Oui.
À la fin de l'entrevue, les officiers rappellent à Klein qu'il a échoué à deux reprises un test polygraphique lorsqu'on lui a demandé s'il savait qui avait tué Libby et Abby. Là. Il a échoué deux fois. Là. Et ils disent qu'il a effacé son historique de recherche peu de temps après.
Okay.
Pourquoi, après avoir échoué au polygraphe sur la connaissance de l'enquête de Delphi, es-tu rentré chez toi? As-tu supprimé ton Snapchat et ton Instagram que tu utilisais pour communiquer avec Libby? Et puis, tu as cherché combien de temps dure l'ADN, a demandé le détective. Donc, il a fait plein de recherches Google après ça. Donc, c'est extrêmement louche. Donc, Klein prétend qu'il a probablement fait cette recherche parce qu'il avait donné un échantillon d'ADN à la police. Ce qui se tient aussi, mais comme je vous dis, Klein ne sera pas maintenu comme suspect. Mais vous allez voir, cette histoire nous réserve encore plusieurs rebondissements.
Les années passent, Émile, et il n'y a toujours pas de nouveau suspect d'intérêt dans l'affaire. On se demande un peu si les enquêteurs font bien leur travail, quand dans la communauté, on trouve qu'il manque un peu de transparence en divulguant des informations au compte-gouttes à des années d'intervalle. Ceci dit, c'est en octobre 2022, il y a un peu plus d'un an, que l'histoire va débloquer enfin. Le 26 octobre 2022, le groupe de travail mandaté pour enquêter sur le double meurtre de Delphi a un suspect dans sa mire. Il a même été arrêté. Il s'agit de Richard Allen, un homme de 50 ans habitant la région de Delphi, et les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit de l'homme sur le pont. Ils auraient de nombreux témoins. Sa voiture aurait aussi été vue sur les lieux. Allen est directement arrêté à sa résidence et mis à charge pour le double meurtre de Libby et de Abby. Il serait tout de suite envoyé en prison avec une caution fixée à 20 millions de dollars.
À 20 millions de dollars, là, c'est signe qu'ils sont pas mal sûrs que c'est toi, là, parce
oui.
que ils jugent que t'es très, très dangereux, puis si t'es capable de sortir 20 millions, c'est bonne chance.
Ben oui, exact. Je me demande toujours si c'est arbitraire, cette échelle-là de caution. T'sais, on dirait que selon la personne, justement, selon la gravité, il y a plein il y a l'air d'avoir plusieurs facteurs, en fait, qui décident de ça. Je serais curieux de voir s'il n'y a pas un genre de guide où c'est selon le... selon le jeu, je me demande si c'est très subjectif ou non par
Bonne
rapport.
Bonne question.
À ça.
Encore une fois, s'il y a des juristes ou des criminologues dans la salle.
Oui, on serait curieux.
Oui. Comment on détermine le montant des cautions?
Tout d'abord, qui est Richard Allen? Pendant au moins 16 ans, Allen a résidé à Delphi et sa maison se trouve à moins de 4 km de Monon High Bridge où les filles ont disparu après une randonnée. Des dossiers montrent qu'il a précédemment vécu à Greenwood et à Mexico en Indiana. Allen est un technicien de pharmacie agréé, ayant obtenu sa licence de l'Indiana en 2018 et elle est toujours valide. Il travaillait à la pharmacie CVS de Delphi, développant même des photos pour la famille de Libby German après les meurtres, sans les facturer. Ça, c'est creepy. Il a lui-même développé les photos pour les funérailles de Libby.
Ah, ça, c'est tordu.
Depuis les accusations portées contre lui, Allen a déclaré dans un document judiciaire que sa femme a dû quitter leur domicile, qu'il a perdu son emploi, obligeant également sa femme à quitter le sien. Andrew Baldwin, l'avocat de la défense d'Allen, a déclaré que la famille a été énormément impactée par son arrestation. Sa femme est une personne merveilleuse, je le cite, et elle aime son mari. Ils sont mariés depuis plus de 30 ans. Ils étaient essentiellement des amoureux du lycée ou du secondaire. Ils s'aiment et elle le soutient pleinement, a déclaré Baldwin. Mais c'est dévastateur. Elle a peur, elle ne veut pas quitter sa maison. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Allen avait été interrogé par les policiers en 2017 car il avait avoué avoir pris une marche sur le pont ce jour-là, mais qu'il n'avait jamais interagi avec quiconque pendant sa randonnée. Les enquêteurs affirment que Allen s'était par la suite faufilé dans les mailles de l'enquête en raison d'une erreur cléricale qu'on ne sait toujours pas c'est quoi. Ceci dit, lors de son arrestation en 2022, il maintient la même version qu'à l'époque. Il se trouvait sur le sentier de 13h30 à 15h30 ce jour-là. Il a déclaré qu'il avait garé sa voiture à l'ancien bâtiment de la Farm Bureau, qui a ensuite été confirmé comme étant l'ancien bâtiment des services de protection de l'enfance.
Oui, ce que je disais tantôt.
Oui, c'est ça. Et avait vu trois filles au Freedom Bridge.
Donc, il avait déjà confirmé à l'époque qu'il avait garé sa voiture
oui.
à cet endroit-là. Il avait dit ça naïvement, en fait.
Oui, c'est... Allen a déclaré aux enquêteurs qu'il n'avait pas parlé aux filles lorsqu'il marchait du Freedom Bridge au Monon High Bridge. Il indique également à la police qu'il a vu des filles sur les sentiers à l'est du Freedom Bridge avant de se rendre au Monon High Bridge pour observer les poissons. Il est à noter que Allen a communiqué ces informations à la police en 2017, mais il n'est apparu que plus tard que la police l'avait effectivement interrogé lorsque son motif probable d'arrestation a été publié, lui, en novembre 2023, là, c'est tout récent. On se rappelle à l'époque, les autorités affirmaient que les meurtres étaient sans doute terminés à 15h30, ce qui est cohérent avec la version de Allen.
Oui, exact. Ça fit dans la version. Alan, il se met carrément sur le pont au moment où les crimes auraient été commis.
Oui.
Mais vous allez voir, on dirait qu'il y avait pas mal de monde sur le pont là, parce que cette journée-là, en plus, on est une journée où il n'y avait pas d'école, tout ça.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais.
Et surprenamment, même si c'est un endroit assez reclus, il y a pas mal de monde qui ont pris des marches sur ce pont-là cet après-midi-là. On va y revenir un peu plus tard. Mm. Au cours du mois suivant, il y aura un fort débat en cours entourant la sortie de l'affidavit de cause probable présentée par les enquêteurs et par la couronne. C'est dans cet affidavit qu'on peut voir en partie le poids de la preuve rassemblée par les procureurs. La couronne souhaite garder le tout privé, alors que les avocats de la défense, eux, souhaitent que tout soit révélé au public, probablement car ils estiment que la preuve est mince. Le 28 novembre 2022, les avocats d'Allen déposent une motion pour un changement de lieu pour son procès. Dans la motion, les avocats Baldwin et Rosie évoquent une attention médiatique importante portée à l'affaire et déclarent que l'on pourrait soutenir que le niveau de publicité qu'a reçu ce cas particulier en cours des 5 dernières années rendrait difficile la sélection d'un jury qui n'aurait pas entendu parler de cette affaire. Parce qu'évidemment, lorsqu'il y a procès devant jury, il faut être assez impartial.
Oui.
Le lendemain, le 29 novembre, les documents sont finalement rendus publics et c'est là qu'on va en apprendre beaucoup sur l'histoire. Et là, imaginez-vous donc que je l'ai lu au complet, l'affidavit.
Oui.
Mais c'est pas si pire, c'est juste 12 pages. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'affaire, pardon, je vous incite à lire. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de détails intéressants. On en comprend un petit peu plus, puis on comprend un petit peu plus la stratégie des policiers parce que vrai un peu comme la communauté de Delphi. Moi aussi, je trouve qu'ils ont manqué un peu de transparence. C'est pourquoi en 2017, ils ont publié une photo du monsieur qui marche, alors que il aurait pu publier une vidéo tout de suite. Oui. Ça nous aurait permis de voir sa démarche, sa dégaine, son rythme de marche. Mm-hmm. Même chose pour l'extrait audio. Pourquoi pas l'avoir mis au complet dès le départ? Puis encore, on n'a rien vu apparemment qui était de 40 secondes de longueur, ce vidéo-là avec l'extrait audio. Donc vraiment, il y a un peu un manque de transparence, mais en même temps, on se dit peut-être que c'est une bonne chose, peut-être qu'ils savent où ils s'en vont, peut-être que ça fait partie de la stratégie. Donc avec l'affidavit, on va comprendre un petit peu plus leur mindset, leur façon de penser. Tout d'abord, on revient un peu là, sur le sort des victimes. Et là, on confirme, leur corps aurait été trouvé dans le boisé à environ 320 mètres du pont Monon, où on a vu l'homme marcher. Leurs vêtements auraient été retrouvés dans la rivière Deer Creek, du moins une partie des vêtements, mais il n'y a pas de nouveaux détails là-dessus. Ils reviennent aussi sur l'analyse des téléphones des victimes et vont beaucoup plus dans les détails sur les dernières minutes de leur vie. C'est vraiment troublant, là, puis à la fois héroïque, parce que vous allez voir, c'est grâce à elles-mêmes qu'on va attraper leur propre tueur. C'est pas banal là, comme histoire, là. La vidéo où on voit l'homme marcher sur le pont, c'est une longue vidéo où on n'a pas tout vu. Dans la vidéo non éditée, l'homme marche vers elle et on entend une des deux filles dire « gun », mais pas trop fort, comme si elle avait voulu avertir son ami, là, genre « watch out,
oui, oui, oui.
Gun ».
Il y a un fusil.
Et par la suite, l'homme pointe son arme vers elle et leur dit « guys, down the hill ». Et par la suite, la vidéo coupe.
Oui.
Donc imaginez la scène. C'est fou quand même l'acte de bravoure de la jeune fille de Libby à ce moment-là. Et aussi, il y a des nouveaux témoins qui apparaissent soudainement dans l'histoire.
Okay.
Comme je vous disais, il y avait pas mal de monde sur ce pont-là. L'affidavit contient le témoignage de 3 nouvelles personnes, donc 3 filles de moins de 17 ans qui, elles aussi, en fait, marchaient sur le pont pendant ces heures-là. Et elles déclarent avoir croisé un homme sur le Monon High Bridge qui semblait cacher son visage et les a fixés du regard lorsqu'elles l'ont salué. L'une des 3 mineures a estimé la taille de l'homme à ne pas dépasser 5 pieds 10 pouces environ. Elles ont donné des descriptions variables de sa tenue, mais toutes ont affirmé qu'il portait un jean et une veste foncée.
Okay.
Les 2 jeunes filles l'ont salué et lui n'a jamais répondu. Une autre témoin, dont le nom a également été supprimé, a déclaré aux enquêteurs avoir également vu un homme correspondant à la description du « bridge guy » capturé sur la vidéo de Libby. Elle a également rapporté avoir vu Libby et Abby marchant vers le pont vers 13h49. Un autre témoin a déclaré à la police avoir vu un homme portant une veste bleue et un jean boueux et ensanglanté. Et il y a des images de vidéos de surveillance aussi là, au Hoosier Harvest Store voisin, en fait, qui montrent que en fait, ce témoin quittait la zone vers 15h57. Okay. Donc, c'est la personne avec le jean boueux.
Oui, oui, une demi-heure après. Hein.
Les deux témoins ont déclaré aux enquêteurs qu'ils n'avaient croisé aucun autre homme sur les sentiers ce jour-là. Lors d'un entretien avec la police au début de l'enquête, M. Allen, lui, a déclaré qu'il était sur le sentier de 13h30 à 15h30. Donc, tout ça est cohérent, puis il n'y aurait pas eu d'autres hommes, là, individus de sexe masculin, qui auraient marché sur le pont. Il a l'air d'avoir juste lui et à avoir que des jeunes filles. Donc, encore une fois, ça rend le spectre très restreint de suspects potentiels. Il a dit qu'il était allé du Freedom Bridge au High Bridge et a affirmé avoir remarqué trois mineurs, mais n'avoir pas interagi avec eux car il était distrait par une alerte boursière sur son téléphone.
Okay.
Un véhicule ressemblant à une Ford Focus 2016 appartenant à Richard Allen a été vu sur des images de vidéosurveillance du Hoosier Harvest Store, le magasin tout près. Un témoin a déclaré que la voiture était garée derrière un ancien bâtiment des services de protection de l'enfance. Donc, encore une fois, ça concorde. Et qu'elle était garée comme si le conducteur avait essayé de dissimuler ses plaques d'immatriculation. Donc, possiblement le dos contre le mur ou quelque chose comme ça. Lors d'un entretien distinct le 13 octobre de cette année, 2023, Richard Allen a déclaré à la police qu'il était allé au pont pour regarder les poissons,
oui.
Encore une fois. Donc, sa version se tient selon la version de 2017 et celle de nos jours. Il a dit qu'il portait un jean avec une veste de marque Carhartt bleu ou noir, le bleu foncé, et qu'il pouvait également avoir porté un couvre-chef, là, un chapeau ou une casquette.
Oui, oui.
Il a admis avoir vu les trois filles mineures, mais a déclaré qu'il n'avait rencontré personne d'autre. Les trois filles, évidemment, il y avait Abby et Libby, et il y en avait une autre qui l'a vu. Là. Selon l'affidavit, un détective qui travaillait sur l'affaire depuis 2017 estimait que la combinaison de la vidéo prise sur le téléphone de Libby, des témoignages oculaires et des images de vidéos de surveillance montraient et prouvaient que Richard Allen était le « bridge guy », l'homme sur le pont, en plus de son propre témoignage.
Okay.
Et de plus, les victimes auraient été contraintes de descendre la colline par Richard Allen jusqu'à l'endroit où elles ont été assassinées. Parce qu'apparemment qu'elles n'auraient pas été assassinées au même endroit que où elles ont été retrouvées.
Okay,
bref,
mais
c'est pas très clair les détails sur la scène de crime.
Mm-hmm. On retrouve aussi dans l'affidavit plus de détails sur l'arme du crime. Chose que le public était bien impatient de savoir. Tout d'abord, une douille de fusil de calibre 40 a été retrouvée sur le lieu où les deux corps ont été retrouvés. Car encore une fois, semble-t-il que le lieu du crime, comme tu disais, Émile, soit différent de où on a retrouvé les corps. Ce qui est particulier avec cette douille-là, c'est qu'elle n'a jamais été déclenchée, mais elle a tout de même été éjectée par le mécanisme de chargement de l'arme. Ça fait en sorte que le mécanisme laisse tout de même des empreintes sur la balle, empreintes qui la rendent unique. J'ignorais ça, honnêtement, Émile, c'est-à-dire qu'une balle n'a pas besoin de passer par le canon de l'arme pour être marquée, là, avoir un blueprint dessus. Là, donc,
Exact, moi aussi, je savais pas. Puis d'après moi, le meurtrier ne devait pas le savoir non plus.
Non, effectivement. Cela ouvre une autre possibilité à la scène de crime. Est-ce possible qu'il ait tenté de tirer et que son arme se soit bloquée ou qu'il ait dû les tuer d'une autre façon? C'est un peu la question qu'on se pose. Les autorités n'ont jamais révélé la cause du décès des filles, affirmant seulement qu'elles ont perdu beaucoup de sang après avoir été attaquées avec une arme non spécifiée et qu'elles n'ont pas été tuées à l'endroit où leurs corps ont été découverts. Cela pourrait expliquer les rumeurs de gorge tranchée que nous avions évoquées en 2018 en lien avec les foulards là, que les filles portaient au cou lors de leurs funérailles. Plus tard, en 2023, il sera évoqué que les policiers croient qu'elles ont été tuées à l'aide d'un objet tranchant. Peut-être justement parce que l'arme n'a pas fonctionné sur le coup.
Oui, c'est une question que je me pose aussi, moi. Si, si la jeune fille, elle a dit qu'elle a vu un gun quand il marchait sur le pont, par la suite, j'ai l'impression que la douille non déclenchée, peut-être qu'il a essayé de peser, tiré, ça s'est bloqué, puis clac-clac, finalement, il est passé à autre chose.
Oui.
La douille est tombée ou quelque chose comme ça. Ou peut-être qu'il s'en est servi juste pour les diriger, juste pour les contrôler. Puis après, il a choisi une méthode pour les tuer qui était plus silencieuse, sachant qu'il y avait des gens sur le pont. Là.
Oui, parce qu'il y a une douille, il y a deux filles aussi, tu sais, mais en même temps, ça l'a bloqué. Il a peut-être pas voulu réutiliser son fusil pour, disons, une deuxième douille, là, j'imagine. On apprend aussi dans la vie d'Avid que lorsque sa femme a été interrogée, elle a avoué que Allen a déjà possédé une veste Carhartt, comme mentionné par les témoins. Il en avait donc assez pour mener une perquisition détaillée chez Richard Allen. Le 13 octobre, les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition à son domicile de North Whiteman Drive, qui partageait avec sa femme Katie, selon encore une fois l'affidavit. Sur place, ils ont trouvé des couteaux et des armes à feu, dont un pistolet Sig Sauer modèle, le P226. Le laboratoire de la police d'État de l'Indiana a analysé l'arme à feu et elle a déterminé que la balle non tirée là, qui a été trouvée à deux pieds de l'un des corps des victimes est bien celle qui avait été utilisée dans le pistolet de M. Allen. Donc, Allen a confirmé qu'il possédait l'arme depuis 2001. Sa femme, Katie, aurait dit aux enquêteurs que son mari était la seule personne ayant accès à l'arme. Donc, ça limite les autres suspects. Allen n'a pas fourni d'explication sur la manière dont la balle, qui n'avait pas été tirée, s'est retrouvée entre les corps des deux adolescentes.
Un hasard.
Oui, c'est ça. Allen a déclaré qu'il n'avait jamais été sur la propriété où la balle non tirée a été trouvée, qu'il ne connaissait pas le propriétaire de la propriété et qu'il n'avait aucune explication sur la raison pour laquelle une balle utilisée dans son arme à feu se trouverait à cet endroit, toujours selon l'affidavit. On a donc appris beaucoup de choses dans ce document de la cour.
Oui, parce que tu sais, si on revient là-dessus, tu sais, en termes de preuves, c'est sûr que, bon, pour la couronne, il y a des témoins. Bon, ça, c'est sûr, c'est contestable, débattable. Il y a la douille retrouvée sur entre les corps. Mais on a jamais parlé, moi, d'ADN ou on n'a jamais parlé de manteau retrouvé avec du sang appartenant aux victimes ou de choses comme ça. Donc, il n'y a pas tant que ça de preuves tangibles. Mais là, sachant, si Allen dit « Ah, mais c'est un hasard que ma balle de fusil s'est retrouvée là », ben encore, quand on regarde les enregistrements Snapchat, t'as Libby qui dit, tu sais, « gun ». Il y a un gun. T'sais. Donc, l'homme, si on est capable de prouver que l'homme sur la vidéo, c'est bien... celui qui a conduit les filles en bas, il ne peut plus vraiment s'en sortir. Richard Allen est un peu échec et mat à cause de la vidéo que Libby a filmée de lui. Parce que sans cette vidéo-là, il pourrait inventer plein de choses. « Ah, mais je suis déjà allé jouer avec mon gun dans le bois, il y a une douille qui est tombée. » Il y aurait sans doute des chances de s'en sortir, en fait.
Ah oui, ben, le circonstanciel pourrait être plus appliqué, effectivement, que là. Surtout qu'il dit qu'il n'y a personne qui a accès à l'arme, non, il est cuit.
Mais vous allez voir, il va s'enfoncer encore plus, parce que le 28 janvier 2023, en fait, la juge Frances C. Gall, en fait, qui est la juge qui préside le procès de Allen, qui est chargée de présider le procès, mais il n'y a pas encore eu lieu, là, elle publie, cette juge-là, 118 documents judiciaires liés à l'affaire. Les documents sont publiés là, dans le cadre d'une motion déposée par les avocats d'Allen qui voulaient que la juge rejette les preuves saisies chez Allen en octobre dernier. L'un des documents révèle que les procureurs affirment qu'Allen aurait avoué à sa femme par téléphone, à plusieurs reprises même, qu'il avait tué Libby et Abby en 2017. Il aurait également confessé le meurtre des filles à sa propre mère. Donc, cet appel téléphonique de confession présumé a eu lieu lors d'un appel enregistré à la femme d'Allen depuis l'intérieur de la prison de Westville le 3 avril. Il admet plusieurs fois au cours de l'appel qu'il a commis les infractions, telles qu'elles sont reprochées. Et c'est là que sa femme a mis fin brusquement à l'appel.
Okay.
Un autre document montre que les enquêteurs pensent qu'un couteau a été utilisé dans les meurtres de Libby et Abby. Une autopsie a révélé que les filles avaient été tuées par un objet tranchant, selon les documents judiciaires. Mais l'autopsie n'a jamais été publiée. On ignore vrai, encore plusieurs détails. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur la scène de crime. On ne sait pas elle est où. Donc, c'est que des rumeurs, tout ça.
J'espère qu'ils ont révélé ces choses. Est-ce que tu sais s'ils révèlent ces choses-là à la famille? Ou c'est trop risqué?
Selon moi, c'est très risqué. Je ne pense pas que la famille ait tant que ça d'infos.
Imagine.
Mais non, c'est clair. C'est des choses qu'on risque d'apprendre pendant le procès, ceci
oui,
dit.
Oui, c'est vrai, tu as raison.
Les documents judiciaires récemment publiés montrent également comment les procureurs estiment qu'Allen a commis les enlèvements qui ont entraîné la mort de German et Williams, qu'il était l'homme sur la vidéo ordonnant aux filles de descendre la colline et qu'il pensait pouvoir entendre le bruit même du pistolet être actionné dans l'audio provenant de la vidéo enregistrée par le téléphone de Libby. Les enquêteurs pensaient également que Libby et Abby avaient été déplacés du pont par Allen vers l'endroit où leurs meurtres ont eu lieu. Les avocats d'Allen, eux, expriment de sérieuses préoccupations quant à sa santé mentale et physique. Les documents judiciaires allèguent qu'Allen a commencé à mâchouiller des documents que son avocat lui envoie et à les manger. Apparemment qu'il serait même maltraité en prison, que les gardes de sécurité respecteraient pas la durée de ses sorties, que lui aurait fait des grèves de la faim, grèves du sommeil, qu'il serait très mal en point là, en prison. C'est sûr que c'est quelqu'un à risque là, en prison, sachant que tuer deux petites filles, c'est sûr qu'il doit être dans la cible de plusieurs autres prisonniers. Mais c'est apparemment que, bon, ils ont fait à un certain moment aussi une demande de changement là, de prison.
Oui, j'imagine. Hein. Souvent, ils les isolent aussi pour leur sécurité.
Et ce n'est pas fini toute cette histoire, Seb. Hein? On n'est pas encore rendu à la fin. Il y a encore des rebondissements qui nous attendent. Okay. Le 20 septembre 2023, là, c'est presque, presque au moment de l'enregistrement.
Oui.
Les avocats d'Allen déposent un dossier exposant les raisons pour lesquelles ils estiment que les filles ont été sacrifiées lors d'un rituel et portent des accusations contre les principaux enquêteurs, les accusant d'ignorer délibérément ou de supprimer cette preuve pendant des années. Écoute bien ça, là. Le dépôt a été fait dans le cadre des efforts visant à supprimer, encore une fois, les preuves d'armes trouvées lors de la perquisition d'Allen. Baldwin et Rosie, les deux avocats, affirment que trois membres des forces de l'ordre ont examiné une possible connexion avec les Odinistes, qu'ils décrivent comme des membres d'une religion païenne nordique qui a été détournée par des nationalistes blancs comme étant impliqués dans les meurtres. On sait même dans la région de Québec, il y a les soldats d'Odin.
C'est vrai, oui.
Ils affirment également que les enquêteurs avaient connaissance des noms de ceux qui pourraient être derrière les meurtres dès février 2018 au moins. Donc, eux, ils balayent un peu, ils essaient de faire un ricochet et d'enlever la pression sur Allen. Donc là, ce serait des Odinistes, en fait, qui auraient tué les jeunes filles. Selon ces documents-là, la scène de crime où les corps de Abby et Libby ont été retrouvés comportait des symboles païens formés avec des bâtons, des branches d'arbres et des marques sur un arbre. Ses avocats affirment également qu'Allen n'avait aucune connexion avec un culte païen et aucune preuve médico-légale ou électronique ne le relie aux filles ou à la scène de crime.
Oui.
Donc là, il y aurait eu justement des drôles de symboles retrouvés sur la scène de crime. C'est bizarre un peu ça. Ils soutiennent aussi que la chronologie exposée par l'accusation ne permet qu'une heure et 17 minutes pour que les meurtres aient lieu. Le temps nécessaire pour ramener les filles sur la scène de crime, les tuer, positionner leur corps, y compris rhabiller Williams, placer les supposés symboles païens, tout ça, et quitter la scène serait impossible par un seul homme dans la période de temps proposée.
Okay.
Mais là, bon, on en a vu d'autres. Là. On sait que des fois, ça peut se faire très rapidement aussi. Là.
Oui, mais moi, je m'étais posé la question si ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre qui retrouve les corps puis qui les utilise pour faire un genre de rituel. C'est quelqu'un qui serait arrivé après Allen, là, dans le fond.
Ben, ça peut être ça. Ou ça peut être aussi Allen qui décide de maquiller sa scène pour que ça ait l'air d'être d'un rituel ou quelque chose comme ça, puis qu'il mette des petits bâtons ou des affaires de même.
Effectivement.
Donc, c'est weird un peu. On dirait que j'y crois pas tellement. Puis la couronne a complètement refusé là, ce scénario-là. Mais ça risque d'être débattu probablement au procès.
Oui.
Et là, je vous ramène, donc, cette histoire-là, il n'y a pas juste... c'est pas juste des meurtres, c'est pas juste des prédateurs de mineurs, c'est aussi des sectes païens.
Oui.
Mais le 22 novembre 2023, là, on enregistre cet épisode-là, je pense qu'on est le 27,
oui,
Seb. Fait que c'est la semaine passée, là, donc on n'est pas à l'abri qu'on doive faire un autre update. Mais le 22 novembre 2023, il y a un homme de l'Indiana qui a été arrêté et inculpé pour avoir prétendument divulgué des preuves scellées dans l'affaire des meurtres de Delphi à un podcast de True Crime. Écoute bien ça. Mitchell Westerman, 41 ans, est accusé d'une infraction de conversion, le terme typique là, du droit pour le vol, en raison de la fuite de photos sensibles de la scène du crime. Et l'infraction est un délit de classe A. Selon les documents du tribunal obtenus par Westerman, Westerman, en fait, travaillait précédemment dans les bureaux de l'avocat Baldwin, un des deux avocats de Richard Allen.
Okay.
Il a pris plusieurs photographies de preuves. Westerman aurait obtenu accès aux fichiers alors qu'ils étaient tous étalés sur une table de conférence et qu'il n'y avait personne autour, comme dans un film.
OK, c'est trop bien.
Plein de photos imprimées de la scène de crime. Et lui a pris des photos. Premièrement, Westerman aurait envoyé ses photos à un homme vivant à Fishers, en Indiana. Ensuite, cet homme les aurait partagées avec un podcasteur de True Crime. Et finalement, les photos se sont retrouvées partout sur YouTube. Donc, l'homme de Fishers a été interrogé par la police sur la fuite. Et imagine-toi donc qu'il s'est suicidé peu de temps après.
Ah oui.
Et suite à cet incident, les deux avocats de Richard Allen ont démissionné. Donc, il n'y a plus de représentant légal au moment où on se parle. Et même la juge tentait de elle-même se retirer de l'affaire. Mais je pense qu'elle est à deux jours du deadline au moment où on enregistre. Donc, elle n'aura sûrement pas le temps. Et je pense que sa dernière citation, c'était genre « I guess I'll have to do it ». Donc, c'était genre « J'imagine que je vais devoir faire ».
Oui.
Donc, en temps normal, son procès à Allen serait cette année, je pense en mars, quelque chose comme ça, ou très bientôt.
Mm-hmm.
Mais là, ça risque d'être encore repoussé.
C'est incroyable.
Sa santé mentale dépérit. Lui, il a des problèmes de mémoire, même peut-être un petit début d'Alzheimer.
Oui.
Donc, il risque d'avoir encore des rebondissements, Seb, dans cette affaire-là.
C'est incroyable comment c'est long. Moi, je me mets à la place des familles, là, où ce dossier-là ne se clôt pas. Hey, je veux dire, on en parlait en 2018, les filles ont été tuées en 2017. Ça fait tellement longtemps. Je le sais que la justice, c'est long, là, mais c'est... Ça, c'est
comment, ah ouais.
Je suis tellement triste pour... Parce que, tu sais, elles sont mortes, mais juste pour les familles, avoir une forme de paix d'esprit, que quelqu'un paye au moins pour...
Ben oui.
Pour ça, là. En tout cas.
On commence à être pas mal sûr que c'est lui.
Oui, il y a beaucoup de preuves, là, quand même. Là,
ça, exact. Puis si on revient tranquillement aux rumeurs, en fait, qu'on vous a mentionnées au début de l'épisode, ce qu'on avait soulevé en 2018, c'est intéressant de voir comment ça a évolué.
Oui.
On disait aux funérailles, les deux filles, selon les rumeurs, portaient des foulards au cou, ce qui laisse croire que leur gorge aurait été tranchée. Ça a été un peu confirmé avec l'affidavit de cause probable. Elles auraient été tuées à l'aide d'un objet tranchant. Aussi, le pistolet, il y aurait eu une douille non chargée, donc ça confirme un peu cet aspect-là. Elles auraient été assaillies sexuellement ou mutilées, selon les témoins de la scène. On n'a pas de nouveau là-dessus.
C'est vrai.
On ne sait pas l'agression sexuelle. Jusqu'à date, on n'a pas de détails là-dessus. Il n'y a pas eu de nouveau développement sur cet aspect-là, du moins dans les 6 dernières années.
Mm-hmm.
Aussi, on disait déjà en 2018 que leur corps était disposé d'une manière bizarre, laissant croire à un rituel ou à une secte.
Oui.
L'air de rien, c'est presque en train de se confirmer.
Oui, exact.
Bizarre quand même. Selon le coroner, tout se serait terminé à 15h30. Assez wise le coroner, parce qu'effectivement, c'est ce qu'il a l'air. Abby aurait survécu plus longtemps. Elle aurait peut-être même tenté de s'enfuir. Pas de nouveau là-dessus, malheureusement. Un petit garçon amoureux d'Abby aurait été suspecté. Elle serait peut-être enceinte de lui. Elle aurait peut-être voulu se faire avorter. On n'en sait pas plus sur cette histoire-là. C'est pas mal écarté, même.
Oui, c'est
là.
Étrange.
Il y a plus. C'est peut-être au chapitre. Ça reste peut-être une rumeur, en fait, cette histoire-là. Mais on n'a pas reparlé de ce potentiel suspect-là. La possibilité des deux tueurs, ça semble être de plus en plus écarté, là. Comment les choses se dirigent. Je ne semble pas avoir de deuxième suspect jusqu'à présent. Ça a quand même évolué.
Oui, mais comme tu dis, on n'est pas loin. Le procès, je ne peux pas croire qu'il va être innocenté au procès Il va peut-être même mourir d'ici là.
Ben, j'ai hâte de voir. On n'est pas à l'abri de ça. Hein? Puis on n'est pas, pas du tout à l'abri qu'il soit déclaré inapte à subir son procès. Hein? Donc, on verra bien où ça va nous mener. Mais ça va être une histoire quand même intéressante à suivre, qui pourrait être intéressant de recouvrir dans un épisode bilan.
Oui, absolument. Oh, oui, absolument. T'as fait des bonnes recherches, mon cher Émile. Bon travail.
Ouais, je suis retourné en arrière pour essayer de retrouver tout ce qu'on avait manqué pendant ce temps-là.
Oui.
En espérant que vous ayez aimé, cher Distordu, nous, on a beaucoup aimé se replonger dans cette histoire qui est triste, qui est tragique, qui est à la fois passionnante, injuste aussi. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Vous savez où nous trouver. On est sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter. On est sur YouTube aussi. On a un groupe privé aussi où vous pouvez nous rejoindre. Sur Patreon, bien entendu, vous pouvez avoir accès à nos épisodes en avance et à une tonne de contenu. Et on se revoit à l'after show sur Patreon où, en fait, je vais vous parler d'une histoire similaire. Similaire et pas, très différente en même temps, mais où des gens, justement, ont immortalisé un peu leurs assaillants avec les technologies numériques. C'est l'affaire de Denise Hoskins et Aaron Quinn. Très intéressant, vous allez voir, peut-être même qu'on va en faire un épisode complet tellement c'est une grosse histoire. Oui. On vous rappelle que moi et Seb produisons ce show, ce podcast. André Beaupré est notre monteur. Moi-même ainsi que RB faisons la musique cette saison-ci. Merci de vos bons mots là-dessus. Et on ne pourrait terminer sans donner des shout-outs à nos chers membres Patreon. Je te laisse commencer, Seb.
Oh oui, je commence un gros high-five. Merci à Atomy Michael, à Bianca C, Vero Anyways, Karine DB et Nancy D.
Je veux donner un gros câlin à Anne C, à Michael B, à Jimmy L, à Timothée C et à Émilie R.
Je poursuis avec Catherine D, Ariel C, René G, Nicolas L et Joël T.
Une bonne poignée de main à Mathieu C, à Holly Mallory, à Nadine T, à Aude M et à Cocotte.
Je poursuis High Five à Giovanni T, Mathieu G, Juliane C, Marc SL et Laurence G.
Un gros remerciement tout spécial à Jean-François C, à Nadège, à Vanessa, à Nicolas R et à Olivier.
Je poursuis sans vous, on ne pourrait pas faire ce show-là. À Thomas, Alan A, Étienne B, Catherine P et André R94.
Merci pour votre amour inconditionnel à Arthur B, Josiane M, à Jessica, à Victor 11 et à Jack Dan.
Je poursuis avec Eric de Baller Tech, Nadège L, Anne-Marie J, Marie-Hélène S et Elisabeth.
Et pour terminer, ovation toute spéciale à Jean B, à Tristan, à Sophie R, à Karine L et à Isabelle B.
Mon cher Émile, est-ce que tu aurais un mot de la fin pour nous ce soir?
Sachez que le mal est partout. Où vous soyez, où que vous alliez, soyez donc tous et toutes prudents et prudentes.